Oui.
On n'est pas bien? Paisible? À la fraîche? Décontracté du gland?
C'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U.
Et salut à toutes, salut à tous. Aujourd'hui dans votre quotidienne, eh ben on va parler du projet Life Mara et des journées européennes de la mer. Donc ça, ça sera en deuxième partie d'émission, donc avec notre invité Antoine. Mais avant, on reçoit donc Juliette qui vient nous parler de l'association brestoise Le Lieu Dit. Salut.
Bonjour.
Alors, Le Lieu Dit, alors là, je sors ma petite fiche, donc c'est marqué sur votre site internet, ça regroupe donc 11 structures engagées en faveur donc des transitions sur le pays de Brest. Ça travaille donc dans des domaines diversifiés mais complémentaires. Je vais pas faire la liste, hein, tu nous l'expliqueras sûrement, mais d'abord, si on revient sur en arrière, comment c'est venu cette idée de créer ce Lieu Dit?
Alors, c'est venu, ça a démarré en 2015, moi j'étais pas encore là. Alors, j'avoue que je n'ai pas tout l'historique. Mais donc l'idée, à la base, c'était de créer un collectif pour devenir une vitrine de l'économie sociale et solidaire sur le pays de Brest. Et puis après, ça a beaucoup, beaucoup évolué au fil des personnes qui sont passées par l'assaut, et pour devenir le lieu dit. C'est ma réponse.
Alors, c'est vrai, mais ce n'est pas une mauvaise réponse, c'est très bien. Alors, dans la liste, c'est vrai que donc, sur ces domaines diversifiés et complémentaires, on a donc l'alimentation et l'agriculture durable, le réemploi, les mobilités douces, l'éducation populaire, l'économie sociale et solidaire, le numérique, mais aussi la mobilisation citoyenne. Ça, c'est pour les grandes lignes. Mais si je reviens sur les 11 membres, les 11 partenaires, comment ces 11-là ont été définis?
Ça s'est fait au fil des rencontres et puis des échanges qui se sont passés et puis du feeling avec les gens en fait, qui ont voulu se lancer et adhérer à notre asso pour monter des projets en commun pour qui ça leur parlait, on va dire, ce qu'on cherchait à faire. Donc on en a même 12. Il y a 11, mais on en a 12. Donc on en a plusieurs. Est-ce que tu veux que je les cite un petit peu?
Tu peux, hein, si tu veux. Après.
Pas de préférentiel, juste ceux qui me viennent en tête. On a la recyclerie un peu d'air, vers le jardin. TICOP récemment, on a le collectif pour une transition citoyenne, on a l'ADES, hein, c'est le pôle de l'économie sociale et solidaire sur le pays de Brest, on a Énergence, on a les petits débrouillards, les fabriques du Ponant, c'est très multiple, donc des acteurs qui bossent sur les thématiques des transitions et on bosse ensemble en fait pour faire bouger un peu les choses.
Il y a quand même des critères de sélection pour rentrer ou pas spécialement, non?
Agir en faveur de l'environnement, je dirais quand même un peu.
Ce qui est déjà un bel objectif. Ouais. Sur des choses qu'on retrouve aussi sur votre site internet, c'est marqué qu'il y a tout un onglet sur la fresque des possibles.
Ouais.
Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs, auditrices, ce que c'est que cette fresque?
Oui, bien sûr. Alors, la fresque des possibles, bah, tu y as participé. Hein. Alors,
c'est vrai, j'en ai fait une il n'y a pas très longtemps.
Tu pourrais aussi en parler. C'est une animation participative qui dure entre 2 et 3 heures. Pour les gens qui connaissent déjà peut-être le concept des fresques, la fameuse fresque du climat, voilà, c'est le même format à peu près. Sauf que nous, on voulait en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est partager avec cette fresque, partager les solutions locales et arriver avec des choses hyper concrètes auprès des habitants. Et en fait, les encourager à parler de ce qu'ils font, leur expérience perso, sur les petits gestes qu'ils font au quotidien. L'idée, c'est de culpabiliser personne. Si tu fais pas bien, tu fais bien. C'est juste de partager et puis on s'enrichit mutuellement parce que vraiment, c'est les participants qui font le truc, qui font la fresque. Et moi, en tant qu'animatrice, parce que je suis animatrice, je ne l'ai pas dit, je sais aussi que je ressors toujours de chaque fresque avec une connaissance en plus parce que clairement, l'assaut, le lieu dit, on n'a pas la science infuse et on souhaite pas l'avoir. Donc voilà, et puis on aborde plein de thématiques, donc 3 thématiques principales. Donc on a la thématique se nourrir, la thématique se déplacer et la thématique s'équiper, auquel tu as participé. Non, tu n'as pas fait s'équiper,
non, nous,
pardon.
C'était se nourrir, parce qu'on avait faim, on était déjà sur du 10h-11h, on commençait à avoir faim.
Et s'équiper pour ceux qui voudraient savoir, un peu comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Des fois on me demande quand même, c'est tout ce qui touche à... Où est-ce qu'on va se rendre pour s'habiller, faire réparer nos objets ou acheter tout ce qui est électroménager, multimédia, reconditionné. on va aborder tous ces sujets-là. Et on a une quatrième thématique en développement cette année, c'est la thématique habiter. Donc, on a commencé en janvier avec les équipes d'Énergence qui nous ont bien aidés sur le démarrage du développement de cette thématique. Et puis, on continue en interne de travailler dessus. Alors, l'idée, ça va être d'aborder plein de thèmes, de sous-thèmes, je dirais, sans jugement de valeur, hein, mais sur le bien-être, se sentir bien chez soi, qu'est-ce que c'est se loger à prix juste. Voilà, c'est un gros sujet.
Oui, et puis sujet d'autant plus d'actualité, surtout sur Brest, la question du logement. Mm. D'ailleurs, ces ateliers que vous faites un peu partout, vous les faites où ? Principalement dans des écoles, principalement dans du milieu professionnel, vous faites ça où ?
Eh bien, les écoles, pas tant que ça. Alors les écoles, ça dépend de l'âge en fait. C'est une fresque qui est plus adaptée aux adultes. Alors on l'a déjà fait auprès de lycéens, ça passe très très bien. En fait, c'est une fresque, c'est un atelier qui s'adresse plus quand même à des personnes qui ont le pouvoir de décision sur les dépenses au sein d'un foyer. Donc, c'est vrai que les ados, par exemple, peut-être ne peuvent pas trop se sentir toujours concernés, mais on a déjà fait avec eux et ça marche bien. On fait aussi auprès des enfants, mais avec accompagner des parents, ça c'est déjà fait, mais c'est vrai qu'en général, c'est les adultes. Et le cadre, c'est un peu n'importe où, parce qu'on s'adresse en fait auprès des citoyens. Donc ça peut être auprès d'un citoyen, voilà, dans un événement public, par exemple aux Petites Folies. On sera aux Petites Folies samedi prochain, samedi dimanche, la petite pub avec le prochain sujet. Mais on a aussi finalement le public des salariés d'entreprise, salariés de collectivité, en fait n'importe qui nous sollicite, on voit et puis on voit comment ça match et on y va.
Et vous faites ça aussi auprès des élus ? Parce que c'est vrai que ça peut être les premiers concernés sur des questions. Tu parlais d'habitat, donc de transport, de nourriture. Est-ce qu'il y a aussi de la prévention, si on peut appeler ça comme ça, faite vis-à-vis des élus ?
Alors, moi, j'ai commencé relativement récemment à l'asso, donc je ne crois pas avoir ça en tête. Mais les élus, à proprement parler, je sais plus, j'avoue. Mais si on bosse avec Brest Métropole en fait, Brest Métropole donc et aussi la région.
Donc il y a un lien quand même avec les collectivités.
Oui, il y a un lien. On a quand on était avec les équipes d'Énergence, on a eu quelqu'un qui est venu de chargé de mission sur les thématiques de logement, enfin d'urbanisme, tous ces sujets-là, qui est venu de la Brest Métropole. Donc voilà.
Alors, tu parlais justement du fait que vous bougiez, hein, vous bougiez pas mal. Et pour ça, il y a aussi la caravane des possibles. Ouais. La transition est toute faite. Est-ce que là aussi, tu peux nous expliquer c'est quoi cette caravane ?
Alors, la caravane, c'est le même principe qu'avec la fresque, sauf que le format est très différent. L'idée, c'était d'imaginer un espace itinérant, de convivialité, de rencontre avec les gens. Donc on a une vraie caravane qui date des années 80, qui a été toute refaite, repeinte. L'idée, c'est de se poser dans l'espace public. C'est vraiment une animation qui est dans le aller vers les gens, qui est bien plus adaptée à tout ce qui est événement festif. C'est pas pour rien qu'on veut aux Petites Folies. On avait fait les Jeudis du Port aussi l'été dernier. Et l'idée, ouais, c'est de croiser les gens. Souvent, elle attire un peu la curiosité, quoi, au niveau on peut pas la louper. Et nous, on offre le thé, le café, on met un peu de musique. C'est ambiance chill, détente. On peut trouver à l'intérieur une petite bibliothèque. Je dis petite, mais elle est quand même assez variée, où tu as des jeux, des livres pour tous les âges et qui touchent de près ou de loin à divers sujets qui gravitent autour de la transition écologique.
Il y a quoi comme livre, par exemple ? Je suis curieux. Hein,
On a la BD Algues Vertes, que j'ai pu lire du coup.
Très bon choix.
Très bon choix, très intéressant.
Et les retours, quand c'est comme ça, que ce soit des festivaliers ou même des gens qui participent à la fresque, c'est quoi ? Quels sont les retours que vous avez, que ce soit positif ou même négatif d'ailleurs ?
En général, on a pas mal de positifs quand même. Positif, c'est souvent, j'ai découvert... telle adresse à Brest. Alors, je dis, on est à Brest beaucoup, hein, mais on est surtout le pays de Brest aussi. Parce que les enjeux entre zone urbaine et zone rurale ou périurbaine, c'est vraiment pas les mêmes sur toutes ces thématiques-là. En général, c'est du positif. S'ils repartent en n'ayant pas l'impression d'avoir appris un truc ou d'avoir découvert quelque chose, c'est pas grave, ils ont toujours passé un bon moment d'échange avec les gens. Et c'est déjà ça de pris, ils ont passé un bon moment, quoi. Donc, voilà.
Je confirme, pour l'avoir fait, on avait passé un bon moment.
C'est cool.
Ouais, c'était sympa. D'ailleurs, sur les autres choses qu'on peut voir sur votre site internet, il y a des offres. Alors, il y en a deux. La première, c'est des offres de prestations de services. Donc, si je ne dis pas de bêtises, c'est plutôt vis-à-vis des entreprises. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne ?
Alors, malheureusement, je ne vais pas pouvoir t'en parler beaucoup parce que c'est ma coordinatrice, notre coordinatrice à l'ASSO, Ilena Quérin, qui pourrait plus te répondre là-dessus, mais elle n'était pas dispo aujourd'hui. Ça a été quelque chose qui a été commencé à développer, qui n'a pas forcément très bien pris, mais qui est pas, du coup, qui a été mis un peu de côté, mais qui est...
Mais c'est pas mort complètement.
C'est pas mort du tout, non, c'est quelque chose qu'on garde en projet, mais c'est vrai qu'on est une petite ASSO, on n'est que deux. Avec deux salariés, avec un apprenti et puis quelques bénévoles. On s'est ouvert au bénévolat il y a peu de temps, donc voilà, ça se développe progressivement.
Et donc là-dessus, c'est vrai, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet. Donc c'est vrai qu'il y a, donc, on le disait, il y a déjà la liste des 12 membres. Il y a donc la fresque des possibles, il y a la caravane des possibles, il y a des offres, donc l'offre de prestation de services et des offres aussi de team building. Donc là, c'est plus pour des cohésions d'équipe. Donc, mais là aussi, vous trouverez toutes les informations sur le lieudit.fr. Mais c'est vrai qu'on parle d'écologie depuis tout à l'heure. C'est quand même la trame, j'allais dire, principale. Mais c'est une thématique forte. Surtout en Bretagne, on connaît le poids de l'agroalimentaire. Tu parlais de la BD sur les algues vertes tout à l'heure. On connaît le poids que ça a aussi sur le milieu économique. On connaît aussi donc, toute cette urbanisation qui prend de plus en plus de place. Tu parlais du logement tout à l'heure. Et c'est vrai que, est-ce qu'aujourd'hui, les Bretons sont prêts à la transition écologique ?
Ouf, c'est une très bonne question. Je pense qu'ils sont de plus en plus prêts, qu'ils ont de plus en plus envie de voir des trucs bouger, des choses changer. Après, ça dépend du secteur dans lequel tu travailles. Ça représente quand même un secteur d'emploi qui est important. Donc, c'est pas tout noir ou tout blanc, quoi. C'est toujours du gris sur ces sujets-là. Mais ce que je sais, c'est qu'il faut continuer d'aller voir les gens, leur parler et puis essayer de faire bouger les choses. Il y en aura qui diront ça va trop vite, d'autres ça va pas assez vite. Ben, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a.
Il y en a qui disent aussi que pour l'écologie, c'est extrêmement punitif. Il y a beaucoup de contraintes, que ce soit sur la consommation personnelle ou même professionnelle. Ça aussi, vous, c'est quelque chose, ou même toi, quand tu fais tes fresques, et c'est des retours que tu peux avoir parfois de gens qui te disent « bon, ok, c'est sympa, toutes tes petites techniques, toutes tes petites astuces, mais concrètement, soit c'est trop cher, soit c'est trop compliqué à mettre en place, soit on n'a pas le temps. Il y a ces contraintes-là qui peuvent être vues comme punitives. C'est des retours que tu peux avoir ?
Pas vraiment. Alors, je réfléchis un petit peu. Comment te répondre là-dessus ? Je ne dis pas qu'on n'a pas de retour négatif, mais quand c'est du négatif, c'est plus... ça vient de personnes qui sont déjà hyper sensibilisées et qui se sentent un peu démunies face à l'ampleur et au mur qu'on peut rencontrer, structurel, on va dire. Ouais, non, je sais pas.
Vous n'avez pas spécialement des retours comme ça de gens qui vous disent « Ouais, en fait, l'écologie est plus punitive que... »
Durant la fresque à laquelle tu as participé, il y a quand même eu un participant qui m'a posé une question super intéressante à laquelle j'ai répondu de manière hyper honnête, hein, en donnant mon avis, hein, pas en représentant l'asso ou quoi, mais on parlait des éco-gestes, voilà. Moi, il m'a demandé est-ce que ça sert vraiment de faire tout ça. Moi, je lui dis, en fait, non. Voilà, si tu veux que je te réponde clairement, non, ça ne sert à rien. Mais en fait, si, ça peut quand même servir à quelque chose. Enfin, à partir du moment où il parlait de ce pourcentage, enfin, je n'ai plus les chiffres, mais que si tout le monde se mettait à faire des éco-gestes, chaque individu faisait des éco-gestes tous les jours, on ne réduirait pas beaucoup les émissions de carbone sur la planète et que toute la responsabilité reste auprès des industries, des gouvernements, et je dis vraiment au pluriel, hein. Mais en attendant, il faut quand même. Enfin, moi, je suis d'avis que c'est pas pour ça qu'il faut baisser les bras. Il faut continuer de faire avec les moyens qu'on a. Donc, tu me disais, ouais, c'est trop cher et tout. On essaie quand même de. On en parle beaucoup des solutions solidaires. Donc, on essaie de partager au maximum aussi toutes les adresses et les initiatives solidaires. Mais c'est vrai que oui, l'écologie, ça peut être malheureusement un peu plus cher et. Si on part sur l'alimentation, si on part sur du bio, tout ça. Mais moi, en animation, je ne parle pas que du bio. Je parle surtout sur le principe de c'est quoi bien manger. Ok, le bio, ça en fait partie, mais pas que. C'est aussi plus cuisiné. Mais encore une fois, on ne cherche pas à culpabiliser les gens, ça ne sert à rien. En fait, face aux participants qu'on a en animation, vraiment, on va être dans l'écoute. Et s'il y a un problème, on va essayer de solutionner le problème. Si on n'arrive pas à solutionner le problème, et voilà, c'est pas grave. On va essayer de trouver un autre truc et puis parler d'autre chose. Et puis voilà, c'est pas punitif. Faut pas rendre ça punitif, ça sert à rien.
Oui, et puis ça serait, comme tu viens de dire, contre-productif. Mais on le voit, c'est vrai que le sujet d'écologie est très fort, en plus dans notre région. D'ailleurs, c'est vrai que là, si des auditeurs, auditrices souhaitent vous aider, tu disais tout à l'heure, vous êtes deux salariés, un apprenti, si je ne dis pas de bêtises au lieu-dit. Comment concrètement on peut vous aider? Est-ce qu'on peut vous rejoindre déjà?
Oui, bien sûr. Alors, en tant que bénévolat, ou alors si vous voulez adhérer, il y a une possibilité d'adhésion à l'année, c'est 10 euros ou alors 5 EOL. Pour les gens qui connaissent EOL, la monnaie locale sur le pays de Brest, EOL que je n'ai pas cité, qui est aussi une de nos structures membres. Ouais, ça, c'est les moyens, c'est les possibilités. Vous pouvez être bénévole sur plein de nos petits projets différents, être dans l'animation, mais pas que. Et puis, sinon, on est une asso, donc on aime bien recevoir des dons. C'est toujours super chouette d'avoir des dons. On a une page sur Hello Asso sur laquelle on peut faire ça. Voilà, et vous faites comme vous voulez pour venir nous aider.
Bien, je vous invite à aller faire un tour donc, sur le site de Hello Asso si vous voulez donner, et puis surtout sur le site donc, du lieu-dit, lelieu-dit.fr. Merci Juliette d'être venue répondre à mes questions au micro de Radio U. Et avant de rester toujours sur la thématique de l'écologie, mais là plutôt sur la question des fonds marins, plutôt sur ces questions-là, et on va faire une petite pause musicale. Vous êtes toujours sur Radio U sur le 101.1 et on reçoit maintenant Antoine qui vient nous parler donc du projet Life Mara et des journées européennes de la mer qui auront lieu donc les 24 et 25 mai à Brest. Mais avant de parler du projet en tant que tel, toi Antoine, tu fais quoi dans ce projet ?
Oui, alors moi je suis en charge de la communication du projet Life Mara et je m'occupe aussi en partie des actions de sensibilisation aussi.
Et donc sur le projet, alors là c'est ce qui est marqué sur le site internet, donc jusqu'en 2025, Life Mara renforce les actions de 164 sites Natura 2000 français, donc désignés pour leur habitat naturel marin afin de rétablir le bon état de conservation. Mais concrètement, c'est quoi le projet ?
Alors le projet, c'est un projet européen, donc financé à 60% par l'Union européenne et qui est coordonné en France par l'Office français de la biodiversité. Moi je travaille pour cet établissement public et on a aussi 14 partenaires qui nous accompagnent sur ce projet, donc des partenaires scientifiques, aussi des gestionnaires. Et donc l'objectif du projet, donc, c'est de rétablir le bon état de conservation des habitats naturels marins, donc des différents sites Natura 2000, et c'est aussi d'accompagner les gestionnaires des sites en leur apportant des outils un peu innovants et aussi en les accompagnant dans leur mission propre.
Alors c'est vrai qu'en termes d'écologie, un habitat donc, c'est composé d'une structure physique, mais pas que je suppose. Pourquoi est-ce qu'il est important de protéger ces habitats ?
Alors ces habitats naturels marins, donc on peut les comparer aux habitats terrestres, donc comme les forêts par exemple, les landes. Un habitat naturel marin, c'est extrêmement important car cela permet en fait de garantir des stocks de poissons. Ça permet aussi de réguler les effets du changement climatique. Alors nous, on intervient en fait sur l'évaluation de l'état de conservation de ces habitats, mais aussi on met en pratique des actions, on va dire, de correction, des actions correctives, donc pour permettre l'amélioration et garantir l'état de conservation, un bon état de conservation.
Mais concrètement, comment est-ce qu'on maintient un bon état de conservation ? Comment est-ce qu'on fait ça ?
Alors, c'est un travail qui se fait sur le temps long, parce que certains habitats mettent des années en fait à se régénérer. Donc, l'idée, c'est d'abord d'identifier les pressions qui s'exercent sur les habitats. Et puis après, c'est d'accompagner en fait les acteurs maritimes, donc à la fois les professionnels de la pêche, mais aussi les usagers, on va dire, de plaisance, de sport nautique, pour les sensibiliser sur leurs pratiques, et du coup également travailler avec eux pour mettre en place des solutions qui vont permettre de garantir le bon état. Par exemple, là, actuellement, on peut accompagner certains acteurs pour mettre en place des mouillages écologiques, pour éviter, par exemple, que les chaînes des ancres viennent en fait frotter sur les herbiers, par exemple. Les herbiers qui est un habitat extrêmement important pour les poissons, pour aussi stocker le carbone. On travaille aussi sur des actions de sensibilisation à plus grande échelle. Là, par exemple, en Bretagne, dans le golfe du Morbihan, on travaille avec différents acteurs, donc les ports, aussi les gestionnaires de sites comme le parc naturel régional du golfe du Morbihan, et aussi les loueurs de bateaux. Donc, on leur donne des outils de sensibilisation. Donc, on a développé une application mobile avec le CHOM et le secrétariat d'État chargé de la mer, qui a pour objectif en fait d'apporter des solutions et on va dire aussi des bonnes informations sur la biodiversité environnante. Donc cette application, elle est destinée aux plaisanciers, mais aussi aux différents usagers de sports nautiques comme le kayak.
Alors, tu nous as parlé des sports nautiques, de la, de la pêche et autres, mais c'est vrai qu'on est en Bretagne, hein, terre d'agroalimentaire, donc de la pêche, terre aussi nautique, hein, on a plein de bases nautiques. Et est-ce que tous ces acteurs-là, aujourd'hui, sont prêts à faire des efforts pour, c'est-à-dire pour améliorer les choses? Est-ce qu'ils sont vraiment vigilants sur toutes ces questions d'écologie?
Alors, je ne sais pas si tous les acteurs le sont, mais en tout cas, on sent bien, nous, à notre échelle, là notamment... ici, à Brest, il y a un contrat de rade qui est mis en place. En fait, l'idée, c'est de mettre autour de la table tous les acteurs concernés par, on va dire, les acteurs concernés par le bon état écologique de la rade de Brest. Donc, c'est à la fois les acteurs des bassins versants, les acteurs littoraux, mais aussi les acteurs, on va dire, de la bande côtière. Nous, après le Life Mara, on se concentre uniquement sur... on va dire sur le littoral et sur la pleine mer.
Mais sur la question toujours de littoral et de pleine mer, c'est vrai que je pense à des pêcheurs. Hein, y avait quelques mois, des pêcheurs justement réclamaient plus d'aide face à justement vis-à-vis d'Europe, vis-à-vis des Anglais. On peut comprendre que ça peut être difficile pour un pêcheur aujourd'hui d'entendre qu'il faut qu'il fasse encore plus attention à l'écologie, alors qu'ils ont déjà du mal à payer leurs salariés, qu'ils ont du mal à payer le gasoil, l'essence. Et on leur rajoute en plus des contraintes en plus. Comment vous, quand vous allez voir ces acteurs-là, vous justifiez ça?
Alors nous, l'idée en fait, c'est d'accompagner les filières. Donc, par ça, on leur accompagne souvent. Il y a des financements, il y a des équipements qui sont mis en place. Il y a énormément de concertations, de discussions. L'idée, c'est pas de leur mettre des bâtons dans les roues, mais c'est plutôt d'aller chercher les acteurs qui sont prêts à faire ces efforts-là pour pouvoir mettre en place, des actions qui doivent être mises en place, hein, de toute façon, pour améliorer en fait les différentes activités. Donc là, par exemple, en rade de Brest, mes collègues travaillent avec les acteurs de la conchyliculture pour tester en fait. Nous, on intervient en fait plus pour tester des solutions innovantes pour voir si ça marche ou si ça marche pas, et si ça marche, est-ce que c'est réplicable sur d'autres sites, voilà.
Et alors, tu nous disais au début, c'est un projet qui est porté par l'Union européenne. 60%, si je ne dis pas de bêtises, c'était ça. Ça correspond à quoi en termes de somme?
Alors, je n'ai pas la somme exacte, mais c'est plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc, sur 8 ans, sur un projet de 8 ans avec différents phasages. Mais cette somme comprend tout. Dans le projet, donc toutes les actions concrètes, ça coûte énormément. Les actions pour cartographier les habitats, ça coûte énormément, parce qu'en fait nous aussi on pousse à faire connaître ces habitats, parce que très peu de personnes mettent la tête sous l'eau. Donc nous, l'idée, c'est de développer des méthodes de communication innovantes pour, par exemple, là on a développé des films immersifs sur casque de réalité virtuelle pour permettre de montrer à quoi ressemble un herbier, à quoi ressemble un récif de coralligène. Voilà, c'est d'aller sensibiliser les élus, les décideurs, les acteurs et même les citoyens. Donc ces outils-là, ça demande beaucoup de recherche et développement, et ça nécessite aussi beaucoup de financement.
Alors l'idée, tu viens de le dire, c'est de sensibiliser. D'ailleurs, les 24 et 25 mai, donc il y a des journées européennes de la mer, ça aura lieu ici à Brest. Est-ce que vous serez présent?
Oui, nous on sera présent. Alors, on aura un stand dédié. Alors, on aura aussi nos homologues espagnols. Donc, c'est le Life in Temares qui seront présents. Et l'objectif de ces journées, en fait, là, c'est la première fois qu'elles se déroulent en France, donc à Brest. Donc, on remarque bien que Brest a le vent en poupe pour tous ces événements qui ont attrait, aux marins, aux maritimes et à la biodiversité marine. Nous, l'objectif de ces journées, c'est d'être présent pour passer nos messages, rencontrer, faire un peu de réseautage, aller voir les décideurs et leur montrer qu'il y a urgence d'agir, montrez-nous ce qu'on est capable de faire, les solutions, et aussi entamer les discussions.
Et cette journée-là, tout le monde pourra venir ou c'est réservé aux professionnels?
Alors, c'est réservé aux professionnels, donc il faut s'inscrire sur la plateforme. Là, les inscriptions, malheureusement, sont closes depuis le 19 mai. Mais il y a des side events, il y a des choses qui seront faites à côté. Alors il y a plusieurs événements qui se dérouleront dans Brest, mais il y a aussi organisé des visites de sites. Donc en fait, un peu montrer l'excellence maritime brestoise. Donc je sais qu'il y a une visite d'Ifremer, donc, qui sont partenaires du projet Life Mara. Après, nous, on est intervenants lors de ces journées. C'est des journées qui sont organisées par la Commission européenne et la métropole de Brest.
Eh bien, j'allais dire, si vous voulez y faire un tour, mais non, c'est plein. Mais en tout cas, si vous voulez plus d'informations, et ça, c'est possible, je vous invite à aller faire un tour sur le site internet de Life Mara. Il y a plein d'informations là-dessus. Alors, parfois, c'est un peu technique, mais si, avec beaucoup de concentration, vous allez voir et en réécoutant bien cette émission, vous allez, j'en suis sûr, tout comprendre. En tout cas, merci vraiment, Antoine, d'être venu répondre à mes questions au micro de Radio U. Je remercie aussi Jade, qui ce soir était à la technique. Quant à nous, on se donne rendez-vous demain à 18h pour une nouvelle quotidienne. Et sur ce, très bonne soirée.